Chapitre 48. Allongé sur son lit, Hugo vapote un peu de CBD en regardant son téléphone. L'abat-jour en papier de riz pend au-dessus de lui, pâle comme une lune d'hiver. Il porte un pantalon de pyjama rayé et un t-shirt à grosses fleurs. Les tatouages sur ses bras ressemblent à des ecchymoses. Il fait nuit noire à l'extérieur. Hugo rêve de son voyage au Canada. Du moment où il reverra sa mère, l'invitera dans un restaurant au plafond couvert de lampes colorées et lui offrira son dinar porte-bonheur. Il ferme les yeux en entendant le rire d'Agnetta à l'étage. Il y a une heure, ils ont commandé des pizzas pour un dîner tardif dans la cuisine. Son père a dit qu'il était heureux de voir la famille réunie. Puis, il a ouvert une bouteille de vin américain, un Opus One, offert par la maison d'édition new-yorkaise Knopf. Hugo repense à la séance d'hypnose, à ce moment où Eric Maria Bark a tenté de lui faire décrire le visage de la femme blonde aperçue dans le reflet de la vitre de la caravane. Mais à la place, c'est l'homme squelette de son cauchemar qui est apparu, son crâne, ses orbites fondues. Il se demande maintenant s'il ne s'agissait pas de la même image. Peut-être que la femme était maquillée de façon étrange, peut-être que ses sourcils épais projetaient une ombre jusqu'à son front. Il tire une nouvelle bouffée sur sa vapoteuse et se dit qu'il devrait raconter ça à son père. Peut-être qu'Agnetta et lui pourraient s'en servir dans le livre. Il regarde la boule en papier de riz et se dit qu'il devrait noter tout ça pour ne pas l'oublier. Mais il abandonne en voyant que le carnet est sur le fauteuil qui bloque la vieille porte menant au salon, hors de portée. Il pose son téléphone sur sa poitrine et appuie sa tête contre l'oreiller. À chaque fois qu'il inspire la vapeur sèche, une petite lumière s'allume à l'extrémité de l'appareil, projetant un halo pâle au plafond. Il ferme les yeux un instant, se concentre, puis range la vapoteuse dans le tiroir de la table de nuit, prend son téléphone et appelle Olga. « Mon cœur, » dit-elle, la bouche près du micro. « T'es toute seule ? » demande-t-il. « Très seule, » plaisante-t-elle. « C'était qui, ce mec, chez toi ?»«
Quel mec ?»«
Ah, tu veux dire Hakim ?»« Tu lui as trouvé un boulot, » répond-elle en buvant quelque chose. Hugo cale un coussin derrière son dos et se redresse. « Olga, faut qu'on parle. »« On était où l'autre soir ?»«
Red Drum, c'est pas un club normal. »«
Un club normal ? Je déteste les clubs normaux, ils sont nuls à chier et... » « Mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe là-bas » l'interrompt-il.
« Tu vas me faire la morale ? C'est quoi ton problème ? » rigole-t-elle.
« Je veux juste savoir si tu es impliqué dans tout ça, » dit-il.
« Calme-toi. Je connais beaucoup de monde. Je t'avais dit de pas venir, c'est tout.
Hakim aime poser, il gagne hyper bien sa vie comme ça, il envoie plein d'argent chez lui, » explique-t-elle sur la défensive.
« J'ai assisté à un viol, » dit Hugo. « C'était fake, tu comprends pas ?»
dit-elle plus doucement.
« Ces mecs gagnent un fric fou tous les jours. Ils ne peuvent pas être agressés pour de vrai. Ça marcherait pas.
Je sais pas. J'ai vu ce que j'ai vu. Chacun fixe ses propres règles. »
« Ok, très bien. Comme ça, tout le monde est content.
Allez, Hugo. Il y a des gens cassés partout. Et tu sais que je suis pas un ange. Et avec toi, je suis gentille.
C'est vrai.
Si toi, tu l'es avec moi. » Il l'entend allumer une pipe et tirer une grosse bouffée. Il reste immobile, regarde par la fenêtre, et aperçoit la lumière clignotante d'un avion dans le ciel noir. « T'as eu le temps de vérifier si ma mère est enregistrée à Grand Village ?» demande-t-il quand le gargouillis de la pipe cesse.
« Quoi ?»«
On en a parlé. Ses parents vivaient là-bas. Tu m'as dit que tu contacterais les autorités canadiennes. »«
Désolé, mais j'ai pas eu le temps. »
Elle prend encore une taffe, puis tousse à l'écart du téléphone.
« C'est important pour moi, » dit-il.
« C'est important pour toi. » « Tu veux qu'on y aille ?»« Mais apparemment, je ne gagne pas mon argent de la bonne manière, » dit-elle sèchement.
« Arrête. Je veux juste pas que tu sois mêlé à des sales trucs. »«
Olga est une grande fille. » »«
Ok. »
Il entend de la musique de club en fond sonore. « J'ai rajouté de l'argent sur le compte, »
dit-elle après un moment.
Moi aussi. J'ai vu. C'est très bien.
Même s'il nous en manque encore pas mal, continue-t-elle avec une petite toux.
Je sais que t'as pas envie d'en emprunter à ton père, mais on pourrait le rembourser ensemble.
Avec un plan de paiement qu'il accepterait, il pense déjà que je suis un raté, dit Hugo.
T'es pas un raté, si.
Alors tous ceux qui n'écrivent pas des best-sellers internationaux sont des ratés?
C'est juste moi, soupire-t-il.
Et c'est pour ça que tu refuses de lui emprunter de l'argent?
Oui, de préférence.
Est-ce qu'il remarquerait si tu prenais juste une liasse dans son placard?
Non. Mais je ferai jamais ça.
Évidemment. Mais comme prêt.
J'ai déjà assez merdé avec cette interview dans Afton Bladette.
C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé d'écouter ces conneries, dit Olga.
Il était inquiet, c'est tout.
Il était inquiet, répète-t-elle en tirant sur sa pipe. Tu veux venir chez moi?
Je peux pas. Je retourne à la clinique demain. Je vais collaborer avec la police.
Pourquoi? Ricane-t-elle.
Parce que c'est le minimum.
Essayez d'aider quand on peut, dit-il en sentant ses paupières devenir lourdes.
Ils viennent de raccrocher quand Hugo entend des pas précipités dans l'escalier, puis un petit coup sec à sa porte.
Il soupire, ferme le tiroir de la table de nuit, se lève, et en s'appuyant au mur, va ouvrir la porte.
« Viens !» murmure son père.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Son père porte une robe de chambre bleu marine. Ses cheveux sont en bataille, son regard inquiet.
« Il y a quelqu'un dans le jardin, » dit Bernard.
« Quoi ? Qui ?
Viens !»
Hugo suit son père dans le couloir sombre. La situation ressemble à ses cauchemars. Le parquet craque sous leurs pas, et les pendeloques scintillantes de l'applique murale baroque tintent doucement à leur passage. Ils entrent dans la grande bibliothèque où se trouve l'escalier qui mène à l'étage. La porte de la cuisine est grande ouverte. La fenêtre donnant sur l'allée brille dans l'obscurité comme un œil qui semble les suivre lorsqu'ils gravissent les marches. À l'étage, les lumières sont éteintes et les rideaux tirés. La seule clarté provient de la grande chambre. Agnetta se tient près du lit double, une tablette dans les mains. Sa chevelure paraît grise sous la lumière blanche de l'écran. Elle porte un gilet rose sur sa chemise de nuit, des lunettes de lecture, et son visage est luisant de crème.
« Il est encore là ?» demande Bernard à voix basse.
« Oui. Vous m'expliquez ce qui se passe ?» demande Hugo.
« Ne parle pas fort !» dit Bernard en prenant la tablette pour la poser sur le lit. « On ne sait pas trop, mais quelqu'un rôde autour de la maison. »
Il se regroupe autour de l'écran pour observer les images renvoyées par les 6 caméras de surveillance.
« Je ne le vois pas, » dit Bernard.
Agnetta touche une des vignettes pour l'agrandir. Les caméras passent en vision nocturne. Un individu vêtu de noir traverse une zone sombre, longe le pignon et disparaît hors champ.
« Oh merde !» chuchote Hugo.
Les buissons apparaissent comme des fissures noires sur la fine couche de neige. Quelques guirlandes de Noël se reflètent en haut de l'image. Agnetta revient à l'écran partagé. L'intrus est maintenant visible sur la 3e caméra. Il traverse la pelouse près de la véranda, là où se trouvait l'aire de jeu autrefois. La silhouette s'arrête dans un coin sombre.
« Il est en train de pisser, » demande Bernard en agrandissant l'image.
La caméra, placée à près de 4 mètres de hauteur, déforme la façade comme un arc.
« Non, mais qu'est-ce qu'il fait ?» chuchote Hugo.
L'homme, dos à la caméra, tient quelque chose dans sa main droite. On dirait une petite baguette magique qui émet des étincelles noires. Il lève le bras et trace de grands gestes contre le mur avant de s'éloigner. Agnetta passe à la caméra suivante qui couvre le côté opposé de la véranda.
« Où est-ce qu'il est passé ?» dit Bernard.
Le rôdeur n'apparaît sur aucune des caméras.
« C'est bien fermé ?» demande brusquement Agnetta. « Tu as bien verrouillé la porte d'entrée ?»
« Je sais pas, je crois, » dit Bernard.
« Après être sorti avec les poubelles, je pense que j'ai verrouillé, » dit-il en serrant les mâchoires.
Hugo croit voir une silhouette sur la 4e caméra. Il zoome sur le côté ouest. L'intrus est là, vu en plongée. Il dépose son sac à dos et s'arrête devant la fenêtre de la chambre de Hugo.
« Appelle la police, » dit Agnetta.
« Hugo, appelle !»
lance Bernard précipitamment.
« Je dis quoi ?»
demande Hugo en sortant son téléphone, juste au moment où l'alarme retentit. Une sirène puissante se met à hurler et les lumières extérieures s'allument d'un coup. Le téléphone de Bernard sonne. Il le sort de la poche de sa robe de chambre. « C'est la société de sécurité. Réponds !» l'interrompt Agnetta. Hugo regarde la tablette à nouveau. L'intrus a disparu. Il repasse à l'écran partagé et entend son père donner le code de sécurité à l'opérateur et expliquer brièvement la situation avant de raccrocher. « Ils disent quoi ?» demande Agnetta. « Ils arrivent, dans 15 minutes. Ils ont dit que... » Il s'interrompt en entendant un grand bruit sourd au rez-de-chaussée. « Ils ont dit qu'il fallait qu'on s'enferme dans la salle de bain et qu'on s'allonge dans la baignoire. » L'applique du couloir tinte. Agnetta court verrouiller la porte de la chambre. La main de Bernard tremble violemment lorsqu'il compose le 112. Hugo saisit la pince à feu en fonte près du poêle.